Minute Papillon sur France Bleu, Johan Guérin.
Il y a 40 ans, Romy Schneider Sataniel était âgée à seulement de 43 ans, mais les rumeurs circulent. S'est-elle suicidée ou sa mort était-elle accidentelle? Vous allez revivre ces derniers instants pour tenter de percer ce mystère dans Minute Papillon. Bonjour Violaine de Monclos.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans Minute Papillon. Vous êtes journaliste et vous vous êtes justement intéressé à ces derniers jours de Romy Schneider. Avant de raconter sa disparition, il faut comprendre aussi ce mythe de Romy Schneider. Qu'est-ce qu'elle représentait en France et qu'est-ce qu'elle représente encore aujourd'hui ?
C'est d'abord une très grande comédienne qui a une filmographie extrêmement impressionnante. Elle a tourné dans 60 films et elle a tourné avec les plus grands metteurs en scène de son époque. Elle a tourné avec Visconti, avec Michel Deville, avec René Clément, avec Zoulansky. Enfin, elle a tourné avec tous. Elle a eu deux fois le César de la meilleure actrice. Donc c'est d'abord une grande comédienne. Et puis c'est un personnage public qui est connu depuis qu'elle a 15 ans. Et qui est, c'est la grande époque des paparazzi. Et elle est épiée, traquée en permanence, rarement laissée en paix par la presse et les photographes.
C'est vrai, il y a eu beaucoup d'histoires. Romy Schneider qui est née en Allemagne. Elle a vraiment connu cette popularité, ce succès en France. Qu'est-ce qu'il explique? C'est le fait aussi d'avoir travaillé avec tous ces grands noms du cinéma en France.
Alors, elle est née à Vienne, juste après l'Anschluss. Elle a la nationalité allemande comme ses parents, mais elle commence sa carrière en Allemagne et en Autriche avec les Sissi, qui ont un succès phénoménal. Elle refuse, en fait, à la fin des années 50, elle refuse de tourner un quatrième Sissi. Et elle accepte de tourner un film qui s'appelle Christine. Elle parle encore très mal français, donc c'est un film français. Elle tourne avec un jeune homme qui à l'époque n'est absolument pas connu, qui s'appelle Alain Delon. Et donc cette décision de tourner ce film va changer sa carrière. D'abord parce que l'Autriche et l'Allemagne vont lui en vouloir beaucoup d'avoir tourné le dos au personnage de Sissi. Donc elle va rester longtemps très maltraitée en Allemagne. Donc il n'est plus question de faire une carrière là-bas. Et puis elle va tomber amoureuse d'Alain Delon. Ils vont former un couple très beau, très magnétique, qui va évidemment pas durer, mais qui va faire qu'elle va enraciner sa carrière en France à partir de la fin des années 50.
Ouais, ça c'est vraiment sa carrière qui est née en Allemagne.
Oui.
Qui s'est prolongé ensuite en France. C'est vrai que vous parlez notamment de ce grand nom du cinéma, de cette romance qu'il y a eu entre les deux. Ça reste aussi une histoire marquante pour Alain Delon. Il en parle d'ailleurs assez souvent, notamment dans ses écrits, dans ce qu'il peut proposer et partager avec le public.
Oui, et il se l'est un peu approprié, ouais. À vrai dire, parce qu'il l'a quand même quitté, ouais. De façon très brutale. Mais effectivement, il est resté dans l'esprit du public, l'amant éternel de Romy Schneider, alors qu'elle a eu après lui, bien sûr, d'autres compagnons, qu'elle s'est mariée deux fois. Mais effectivement, il reste l'amant définitif.
C'est ça. On peut redonner quelques grands noms de films dans lesquels Romy Schneider a pu participer et a été tête d'affiche, en tout cas vedette.
Alors, il y a eu évidemment les Sissi, qui ont, je pense qu'on se souvient pas très bien aujourd'hui, mais à l'époque, ça a eu un succès absolument phénoménal à travers toute l'Europe. Ensuite, il y a eu énormément de rôles, mais peut-être que le rôle qui donne un second souffle à sa carrière, c'est celui de Marianne dans La piscine de Jacques Deray en 1969, qui a un succès dingue. Et puis, bon, après, il y a le film de Zoulansky, L'important c'est d'aimer, et il y a évidemment tous ces rôles pour Claude Sautet.
C'est ça. Bon, en tout cas, il y a une carrière qui est là, qui est présente. C'est vrai qu'elle traverse en plus les générations Romy Schneider. On le voit avec des rétrospectives qui lui sont également consacrées. On va revenir le 29 mai 1982. Il y a 40 ans, Christine Ockrent annonçait la mort soudaine, tragique aussi, hein, de Romy Schneider. Écoutez cette archive du journal d'Antenne 2.
Madame, monsieur, bonsoir. Elle avait pour elle le talent, la beauté et à 43 ans, cette forme de maturité alourdie par le malheur. Romy Schneider est morte ce matin d'un arrêt cardiaque dû vraisemblablement à une absorption conjuguée d'alcool et de barbiturique. Le substitut du procureur de la République a signé le permis d'inhumer, le médecin légiste ayant conclu à une mort naturelle. De Sissi à la passante du Sans-Souci, Romy Schneider avait su, en une cinquantaine de films, surtout français, forger des personnages de femmes qui touchaient toujours par la sincérité et l'acharnement au travail qui servait son talent. C'est ainsi que Romy Schneider reste parmi nous.
Un moment en tout cas de l'histoire qui fait acte en tout cas et qui marque cet extrait du journal de 20h sur Antenne 2 du 29 mai 1982. Justement, Violaine de Monclos, qui va retrouver le corps de Romy Schneider?
C'est son compagnon, Laurent Pétain, à leur domicile. Ils sont dans un appartement rue Barbé de Jouy à Paris que leur prête le producteur Tarak Benamar. Et c'est son compagnon qui va la retrouver sans vie pendant la nuit ou au petit matin du 29 mai.
Mais on l'a entendu cet extrait là de ce journal. On garde encore une... Ça fait encore quelque chose d'entendre cet extrait-là et de se dire que cette grande femme du cinéma est partie de la sorte. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été dites. On va y revenir et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre « Adieu, Romy » publié chez Grasset. Vous relatez notamment une anecdote avec Michel Piccoli. Vous pouvez nous la raconter ?
Alors à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, donc la nouvelle de la mort de Romy Schneider commence à se répandre. On s'appelle, on fait sonner des téléphones fixes dans des restaurants, sur des lieux de tournage. Et Michel Piccoli, en fait, c'était un grand ami de Romy Schneider. Ils avaient une très belle, très profonde amitié. Il venait de tourner avec elle La Passante du Sans-Souci. Il y a une partie de l'équipe du tournage de La Passante du Sans-Souci qui s'est reconstituée dans le sud de la France pour un autre film. Donc sont attablés, c'est l'heure du déjeuner, sont attablés Claire Denis, Gérard Klein, Jean-Pierre Etchène, qui est le maquilleur de Romy. Michel Piccoli les appelle, leur annonce la mort dramatique de leur ami et leur dit « Ne soyez pas tristes, buvez du champagne à mes frais ».
Mais cette phrase, elle est vraiment marquante. C'est vrai qu'elle est vraiment captivante dans votre ouvrage. Très vite aussi, ça va être la folie au pied de cet appartement parisien où il y a Romy Schneider. Qu'est-ce qu'il se passe exactement ?
Laurent Pétain donc a appelé police secours, puis ensuite il a prévenu les très proches. Mmh. Donc commence à arriver. Alors la rue Barbé de Jouy, c'est une petite rue très tranquille qui longe le musée Rodin. Commence à arriver dans cette petite rue Michel Piccoli, Jean-Claude Brialy, Alain Delon, enfin tous les proches qui viennent rendre un dernier hommage à leur amie défunte. Il y a des journalistes qui arrivent, il y a des badauds qui s'attroupent, il y a des caméras partout, donc il y a un attroupement. Il fait très beau ce jour-là, mais il y a un attroupement au pied de l'immeuble, évidemment un peu désagréable et une panique dans l'air.
Et les journalistes qui vont justement commencer à tenter d'avoir des scoops?
Oui, alors ils vont sonner, alors ils font des tas de trucs, mais ils vont notamment sonner chez le frère de Laurent Pétain, qui s'appelle Jérôme Pétain et qui habite à quelques rues de là. Ils vont alerter une petite jeune fille, Vanessa, qui est la fille de Jérôme Pétain, qui n'est absolument pas au courant, qui connaît très bien Romy Schneider, mais qui ne sait pas qu'elle est morte. Et donc ils vont sonner et l'effrayer un peu.
Et on parle justement dans Minute Papillon aujourd'hui de ce décès de Romy Schneider. Mais qui était Romy Schneider avant sa mort? Vous allez découvrir sa relation d'amitié, notamment avec Marlène Dietrich. Ses colères sur le tournage de son dernier film et puis le drame de sa vie, la perte de son fils. Une figure de cinéma qui reste dans le cœur en tout cas des Français. Amour toujours, ça la caractérise bien justement Romy Schneider. Amour toujours, c'est aussi le titre de Clara Luciani. Tout de suite dans Minute Papillon sur France Bleu.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Il y a 40 ans, l'icône du cinéma Romy Schneider s'éteignait, mettant ainsi fin à une carrière flamboyante. En 1974, quelques années avant sa mort, Romy Schneider répondait à une question sur la fin de sa carrière. Écoutez cette archive de l'ORTF.
Vous avez parfois songé à renoncer à votre carrière ?
Non. Non.
Vous n'y songez jamais ?
Si, ça arrivera.
Qu'est-ce qui pourra faire arrêter votre carrière ?
Moi-même. C'est tout. J'aime pas penser à ça.
La voix de Romy Schneider dans cette archive de l'ORTF de 1974. Violaine de Monclos, vous êtes journaliste. Vous vous êtes intéressée justement à ces derniers jours de Romy Schneider. Vous avez écouté avec attention cet extrait, cette archive et cette voix de Romy Schneider. Il y a plein de sens dans ce qu'elle dit.
Il y a cette voix et cet accent, ouais, qu'elle a jamais perdu, qu'elle a gardé jusqu'à la fin de sa vie, puis qui lui donne un charme sans équivalent. Oui, elle parle de sa carrière, elle a une très belle carrière, 60 films. Et en même temps, moi, ce que j'ai découvert qui m'a rendu un peu triste, c'est que j'ai rencontré son agent, Jean-Louis Lévy, qui me disait qu'elle a eu une carrière très variée, elle a pris des risques, elle a eu des rôles vraiment très différents. Mais à 43 ans, elle a plus beaucoup de projets. À l'époque, en 1982, Jean-Louis Lévy, qui est aussi l'agent de Gérard Depardieu, me disait que pour Depardieu, il avait 20 propositions, 20 scénarios, Et Romy en avait beaucoup moins.
Est-ce qu'elle était heureuse dans sa carrière, Romy Schneider? Est-ce qu'elle a été heureuse, en tout cas?
Oui, 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 je crois, parce que elle est, enfin, sa carrière le prouve, le nombre de films qu'elle a tournés le prouve, et puis encore une fois, elle a eu des rôles extrêmement variés, elle a pris des risques, mais je crois qu'à 43 ans, hélas, pour les femmes dans le cinéma, c'est un âge où ça devient difficile, et au moment où elle meurt, ça devient plus compliqué pour elle de tourner, de trouver des scénarios qui l'intéressent.
Et déjà, quelques mois avant justement cette mort tragique, elle est sur le plateau d'un tournage. Pour quel film ?
Pour La Passante du Sans-Souci, de Jacques Rouffio. C'est un film auquel elle tient beaucoup, parce que ça, il évoque l'Allemagne nazie, qui est un peu son obsession personnelle. Mais c'est un tournage qui a déjà été interrompu deux fois. Une première fois parce qu'elle s'est cassée la cheville, une seconde fois parce qu'elle a été opérée en urgence d'une tumeur au rein. Et puis arrive, hélas, la troisième interruption qui est la plus dramatique, c'est qu'elle perd son fils à l'été 81, dans des circonstances tragiques. Les assurances du film ne suivent plus, mais le producteur Gérard Danon continue à tenir financièrement le projet. Et du coup, elle va reprendre le tournage alors qu'elle est en deuil. Ce qui est évidemment très courageux de sa part.
Mais c'est l'un des grands drames de sa vie d'ailleurs, la perte de son fils. Ça va la marquer clairement sur le plateau d'ailleurs. Elle sera un peu, vous l'évoquez dans le livre, mais elle sera un peu l'ombre d'elle-même.
Bah, ce serait difficile de faire autrement. Elle a perdu son fils quelques mois plus tôt, puis elle va décéder 7 mois plus tard en fait. Elle était très très fusionnelle avec son petit garçon. Et puis de toute façon, je pense qu'on se remet jamais de la part d'un enfant. Mais elle a le courage de tourner quand même, elle fait son travail, elle sait son texte, mais le tournage est effectivement très difficile pour elle et même pour toute l'équipe.
Oui. Alors, Violaine de Monclos, hein, je rappelle que vous publiez Adieu Romy, paru chez Grasset. Vous avez rencontré, vous l'avez évoqué, des hommes, des femmes qui ont pu côtoyer Romy Schneider. Les derniers jours de sa vie, c'est aussi ça qui apporte un caractère encore plus précieux à votre ouvrage. Vous avez notamment échangé avec Louis Bozon, qui est ancien animateur à France Inter à l'époque. Quelle place est-ce qu'il a eu dans la vie de Romy Schneider?
Il a surtout eu une place dans la vie de Marlène Dietrich. Ouais. C'était un animateur de France Inter, il animait la matinale, et il était très très proche de Marlène Dietrich, c'était son ami, ils étaient voisins avenue Montaigne. À l'époque, Marlène Dietrich vit recluse dans son appartement, elle n'en sort plus, et donc elle confie à Louis Bozon quantité de commissions, courses à faire dans Paris, et notamment elle lui demande d'aller porter des livres au moins à 2 reprises à Romy Schneider.
Il y a vraiment ce lien qui s'entretient entre Marlène Dietrich et justement Romy Schneider, relation on peut qualifier de presque maternante.
Oui, oui, oui. Elles se sont rencontrées en 1962. Elles sont allemandes toutes les deux. Elles sont toutes les deux traquées par les photographes en permanence. Donc elles se sont rencontrées en 62 et elles se sont jamais perdues de vue. Elles échangent quasiment quotidiennement au téléphone. Elles s'envoient des petits mots. Et en effet, Marlène Dietrich est très maternante avec Romy. Elle est plus âgée qu'elle. Elle prend soin d'elle, elle la couve, elle la protège. Il y a ce genre de relation entre elles, oui.
Il y a cette histoire, en tout cas, qui les relie, c'est vrai. Louis Bozon, on l'évoque, il vous a raconté, justement, qu'il a participé, notamment, à un trafic pour Romy Schneider. Vous pouvez nous en dire plus?
C'est-à-dire qu'en fait, il croit porter des livres à Romy Schneider, donc ça se produit au moins 2 fois. Et un jour, il trouve que les livres font un drôle de bruit. Donc il questionne Marlène, qui lui explique qu'en fait, ces livres sont découpés et vidés pour y dissimuler du Captagon, qui est un médicament très fort qui n'est prescrit que sous étroit contrôle médical à l'époque. Donc il s'aperçoit en fait qu'il est missionné par Marlène pour fournir Romy en Captagon.
C'est ça, Romy Schneider donc qui prenait, on le comprend, des médicaments. Vous avez également pu rencontrer Monique. Vous pouvez nous la présenter? Qui est Monique pour Romy
Schneider?
Alors
Monique Durie, c'est son habilleuse. Elles se sont rencontrées au début des années 60. À l'époque, Romy est déjà une star très très connue, qui a déjà la réputation d'être assez compliquée, assez capricieuse. Et on la confie à cette Monique, qui était trapéziste dans une autre vie, mais qui est devenue habilleuse parce qu'elle a eu un accident de trapèze, donc elle a dû changer de voie. Elle débute, quand elle rencontre Romy, elle débute vraiment dans le métier d'habilleuse. Tout les sépare, leur origine sociale, leur manière d'être dans la vie, leur caractère. et elles vont avoir une relation, alors qui c'est d'abord une relation professionnelle, mais qui se double d'une amitié et d'une affection incroyable qui va durer pendant 20 ans.
Ouais, c'est beau ça en tout cas. Et d'ailleurs, vous racontez aussi un message qui est bouleversant qu'elle a reçu, que Monique a reçu de Romy Schneider dans votre livre.
Bah, il est bouleversant, c'est pas tellement le message qui est bouleversant, c'est la date à laquelle elle le dépose sur son répondeur. Romy est très coutumière des appels nocturnes. Elle appelle ses proches en pleine nuit, c'est une grande insomniaque. Et le 27 mai, elle laisse un message sur le répondeur de Monique en lui disant qu'elle va faire une séance photo le 29. Elle a une petite voix joyeuse, légère, et elle lui dit « Monique, viens m'aider à m'habiller, à choisir mes vêtements ». Voilà, c'était le 27 mai, et Romy est morte le 29.
Exactement, et on continue justement de parler de cette figure vraiment du 7e art, Romy Schneider, alors mort naturelle, abus de médicaments et d'alcool, suicide. Que s'est-il passé vraiment ce soir du 28 mai 1982 ? Vous allez découvrir le témoignage du procureur en charge de l'affaire. Mais avant, dans Minute Papillon, cette In Excess Suicide Blonde sur France Bleu.
France Bleu, Minute Papillon.
Un titre de circonstance justement, parce que suicide ou pas, on en parle avec les 40 ans de la mort de Romy Schneider. C'est vrai que le mystère pèse toujours autour de ce décès de l'actrice, mort accidentelle, overdose, suicide, retour sur la fin tragique de l'icône des années 60. Violaine de Monclos, vous êtes journaliste, vous publiez vraiment ce livre passionnant, Adieu Romy chez Grasset. On parle de cette mort qui arrive. Il y a de nombreuses versions qui vont circuler à Paris, mais pas que, autour de ce tragique événement. Vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur ce moment-là précis.
Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le soir du 28 mai, elle dîne avec son compagnon Laurent Pétain chez le frère de celui-ci, Jérôme Pétain, et son épouse Claude, qui habite à quelques rues de chez eux. Ça, c'est une certitude. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Laurent Pétain va la trouver dans la nuit, au petit matin, inanimée. Après, il y a eu des milliers d'articles écrits, énormément de biographies, et il y a des versions légèrement différentes qui circulent à chaque fois. Donc ça peut être soit le dîner est très arrosé, soit ils boivent rien. On dit que Laurent rentre tout seul, suivi de Romy quelques heures plus tard, ou alors on dit qu'ils rentrent ensemble. On raconte qu'ils la trouvent sur le sofa du salon, à son bureau, dans leur chambre, en train d'écrire une lettre. Mais moi, le substitut du procureur que j'ai rencontré n'a aucun souvenir de cette lettre. Donc, il y a quantité de versions légèrement différentes qui vont circuler, dues principalement au fait que celui qui a été le témoin de cette dernière soirée, Laurent Pétain, n'a jamais parlé, n'a jamais souhaité parler, par respect sans doute pas pour sa compagne.
Justement, vous l'avez évoqué, hein, le procureur en charge de l'affaire, vous l'avez rencontré, votre travail vous a amené à cette rencontre. Il vous a notamment parlé d'une bouteille de vin.
Oui, il se souvient d'une bouteille de vin vide et de boîtes de médicaments vides aussi. Et c'est en fait avec le médecin légiste qui vient examiner avec lui le corps de Romy Schneider. Il conclut de ces boîtes de médicaments et de cette bouteille qu'elle a consommé, voilà, des substances qui n'ont pas fait bon ménage ensemble. Voilà.
Est-ce que le procureur que vous avez rencontré a pu vous donner aussi peut-être une version plus précise des faits? C'est compliqué, ouais.
Non. Alors, c'était 40 ans après, mais moi, j'ai trouvé que c'était assez confus. En fait, il a écrit, évidemment, en 1982, un rapport sur le corps qu'il a examiné, les circonstances, etc. Mais j'ai jamais pu retrouver. J'aurais bien aimé avoir le rapport écrit sous les yeux. Je l'ai cherché beaucoup, je l'ai pas retrouvé. Voilà, donc il ne m'a raconté que ses souvenirs, mais c'était 40 ans plus tôt et c'était un peu confus.
Et d'ailleurs, le magistrat aussi en charge d'enquêter sur ce décès, il a pas voulu aller peut-être plus loin, pour ne pas casser un mythe aussi. Il y a cette histoire qui est derrière ça.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la raison voudrait que ce matin du 29 mai, il envoie le corps de Romy Schneider à l'Institut médico-légal pour procéder à une autopsie. Et c'est un jeune substitut du procureur. Il est très ému par le corps de cette femme, de cette actrice que tout le monde a aimée à l'écran. Il connaît l'Institut médico-légal et il sait que les dépouilles sont souvent traitées de façon assez inhumaine et il ne veut pas l'envoyer là-bas. Donc, il signe un permis d'inhumer sans autopsie. Ceci dit, l'autopsie aurait pu dire avec certitude ce qu'elle avait consommé, mais évidemment pas pas pu établir s'il s'agissait d'un suicide ou pas.
Bah, c'est ce qui contribue aussi à garder ce mystère autour de Romy Schneider.
Oui, oui, ouais. Effectivement. Je pense qu'on ne saura jamais exactement de quoi elle est morte. Ouais.
Et vous, justement, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce qui vous marque quand vous pensez à Romy Schneider? Quelle image vous avez? Quels sont les mots, peut-être, que vous avez pour la décrire?
Moi, je l'ai beaucoup aimée, comme beaucoup de gens, dans les films de Claude Sautet. Alors j'ai découvert qu'elle était justement pas tellement semblable au personnage qu'elle jouait pour Sautet, mais chez Sautet c'est une femme très libre, très vivante, très dynamique. Je crois qu'elle a laissé quand même un souvenir de femme française, justement, paradoxalement, alors qu'elle était allemande, très fort. Voilà.
Ouais, et on va garder cette image en tout cas. Merci beaucoup Violaine de Monclos d'avoir été avec nous sur France Bleu dans Minute Papillon. C'était un plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup.
À bientôt. Adieu Romy, c'est le livre que vous publiez chez Grasset et qui vous en apprendra plus sur cette figure du cinéma qui traverse les générations. Minute Papillon, c'est fini. D'autres émissions et aventures sur francebleu.fr.